Bienvenue à vous qui nous retrouvez sur AWR, la Radio Mondiale Adventiste, pour votre nouveau programme de la Voix de l'Espérance en français qui vous est proposé et présenté par Oscar Miani. C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par internet ou aussi grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous en rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Alors si vous voulez nous écouter avec votre téléphone depuis la France, eh bien vous composez le 01 80 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 80 14 44 77. Et depuis les États-Unis, eh bien c'est le 1 712 432 9 978. Alors aujourd'hui, au programme, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lindsay. Ensuite, ce sera votre émission Top Cuisine. Et pour finir, ce sera un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchou. Tout de suite, donc, pour commencer, voici Sentez-vous bien. Sentez-vous bien, une émission de santé avec le docteur Jean Lindsay. Bonjour.
Bonjour Oscar.
Alors nous avons l'habitude à ce micro de nous arrêter sur des sujets en lien avec la santé bien évidemment et puis aussi sur les avancées de la médecine. Et aujourd'hui, docteur Jean Lindsay, eh bien vous venez nous parler de publicité et de santé publique. Quel rapport y a-t-il entre la publicité et la santé ?
Il y a un problème si vous voulez, c'est que l'espace public est occupé par de la publicité qui, très majoritairement, disons, vantent les mérites de comportements qui vont pas dans le sens de la santé publique. Pour faire simple, on a beaucoup de publicité pour l'alcool et beaucoup de publicité pour ce qu'on appelle la junk food, les mauvaises nourritures.
Fast food. Et donc ça pose problème.
Oui, parce que on s'est aperçu que ces publicités dans l'espace public, on ne peut pas s'empêcher de les percevoir. Dans l'espace public, quand il y a un élément saillant, c'est-à-dire quelque chose de plus lumineux, de plus coloré, ou avec des formes plus attractives, si vous voulez, votre œil ne peut pas ne pas le voir. Quand vous demandez aux gens est-ce que la publicité vous gêne, la plupart des gens vous disent « ça ne me gêne pas, je ne la vois pas ». Mais c'est précisément ce que cherchent les annonceurs, parce que moins vous la voyez, plus elle vous influence, sans générer de rejet. Parce que si les gens la voyaient, vraiment, il y aurait un refus. Les gens en auraient assez que leur attention soit sollicitée en permanence, partout. Parce que vous l'avez partout. Maintenant, vous l'avez dans tous les espaces publics, des villes, vous l'avez dans le métro, vous l'avez dans les trains, vous l'avez dans la salle d'attente, vous l'avez partout, des écrans partout. Des écrans qui font écran avec la réalité, du reste, qui nous empêche de percevoir la réalité et qui nous mettent dans le cerveau une fausse réalité, nous font construire, nous font émerger dans notre psyché un monde faux, un monde qui n'est pas réel.
Et alors, pour bien comprendre, docteur Jean Lindsay, il faut aussi savoir comment fonctionne notre œil et notre cerveau.
Voilà, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. C'est parce que, supposons que vous circuliez en voiture le long d'une voie au long de laquelle vous trouvez des publicités. Bien, vous êtes quand même concentré sur la conduite de votre voiture.
Bon, normalement.
Normalement, vous regardez quand même ce qui est devant, ce qui se passe à côté. Bon. Donc, la publicité, normalement, vous ne la voyez pas. Enfin, vous ne la regardez pas vraiment. Vous ne la regardez pas vraiment. Par contre, votre œil, on a dans l'œil un système qu'on appelle les saccades oculaires. C'est-à-dire que quand quelque chose de saillant entre dans votre champ visuel, eh bien, de manière réflexe, vous ne pouvez rien faire contre, vous allez avoir ce qu'on appelle une saccade oculaire. C'est-à-dire un mouvement très bref de l'œil que vous ne percevrez pas, dont vous ne serez pas conscient, que si quelqu'un se trouve en face de vous, ne sera pas visible non plus. Cette personne ne verra pas que vous avez fait une saccade. 50 millisecondes, c'est rien. Et la saccade va orienter l'œil de telle façon que la cible se projette sur la fovéa. C'est-à-dire que la saccade va aller s'arrêter sur un point qui correspond exactement à la projection de l'image sur la fovéa, c'est-à-dire la zone de l'œil qui voit le mieux les choses. Et ça va s'imprimer.
Dans le cerveau, en fait.
C'est de manière inconsciente, c'est-à-dire que le sujet ne pourra pas parler, ne pourra pas mettre des mots dessus, mais ça va s'imprimer dans son cerveau, et ça va s'imprimer d'autant plus que ça va se répéter tout au long de sa promenade en voiture ou à pied. Il va avoir des panneaux vantant les mérites de tel alcool.
Et j'imagine que les publicitaires connaissent ce fonctionnement.
Les connaissent.
Et s'en servent.
Non seulement ils le connaissent, mais ils le mesurent. Mmh. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que quand ils font une campagne qui coûte un certain prix, ils peuvent expliquer à leurs clients que ça va leur rapporter davantage, bien au-delà de ce qui aura été investi. Et ça se mesure.
Et alors, quand ce sont de bons messages, on pourrait dire il n'y a pas vraiment de problème. Mais quand ce sont des messages moins bons, comme une incitation à la consommation d'alcool ou autres comportements qui ne sont pas bons pour la santé, là, ça devient donc une question de santé publique.
Et voilà. Nos capacités attentionnelles sont limitées. L'attention, c'est la fonction cognitive la plus précieuse. Elle sous-tend les quatre autres fonctions cognitives que sont le langage, la mémoire, les capacités visuo-spatiales et ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire les capacités organisatrices supérieures, la capacité à s'organiser, à se projeter dans le futur, à avoir des sous-programmes d'action à l'intérieur de grands programmes. Tout ça est sous-tendu par l'attention, qui est un mécanisme extrêmement archaïque, et c'est à la base des grandes fonctions cognitives. Mais si votre système attentionnel est épuisé à force d'être sollicité, eh bien, vos performances cognitives ne vont pas être bonnes. Et on peut se demander si l'envahissement de l'espace commun ne contribuerait pas, aussi peu que ce soit, au mauvais résultat scolaire que plus personne ne nie. Parce que être harcelé en permanence par de la publicité partout, c'est pas bon. Et puis en plus, ça fait faire ce qu'il faut pas.
Donc ça influence le comportement et en plus...
Ça épuise
ouais. Le système attentionnaire.
Ah ouais, attentionnaire.
Donc en fait, c'est à double tranchant.
C'est perdant-perdant. Et en plus, il y a des messages implicites, disons, dans la publicité, qui s'adressent... En marketing, on segmente les publics qu'on vise. Mais les publicitaires n'hésitent pas à utiliser les instincts les plus bas... qui existe chez tous les humains, malheureusement, n'hésite pas à servir de ces leviers-là pour arriver à déclencher le réflexe d'achat.
Et alors donc, pour conclure, docteur Jean Lindsay, qu'est-ce qu'on peut dire ?
On va demander à nos auditeurs d'abord de bien regarder la publicité, parce que les publicitaires...
Ah, vous conseillez de bien la regarder ?
Ah ouais. Ne pas être comme les gens qui disent « je ne la vois pas ». Regardez-la bien, et regardez leur contenu, analysez les contenus. Tous les gens à qui on conseille de bien regarder la publicité reviennent vers vous en disant « c'est effrayant ». Et les publicitaires le savent. C'est pour ça qu'ils expliquent bien qu'ils sont très contents qu'on ne la voit pas. Parce que ça permet d'influencer les gens sans obtenir de rejet. Ce qu'ils craignent, c'est le rejet. Mmh. Et parce que si tous les gens étaient bien conscients de la manipulation qu'il y a derrière ça, et du fait que même le fait qu'ils ne le voient pas est voulu, eh bien certainement que les gens seraient pas contents. Hein. Donc regardez bien les publicités. Surtout.
Voilà, pour terminer, regardez bien les publicités
bien
qui envahissent l'espace public.
Ouais.
Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. C'était Sentez-vous bien avec le docteur Jean Lindsay. Et aujourd'hui, eh bien vous l'avez compris, il était question de santé publique en lien avec les publicités qui envahissent l'espace public. On se retrouve rapidement pour un nouveau sujet dans Sentez-vous bien. À bientôt. Au revoir.
Au revoir, Oscar.
The Voice of Hope.
Here is Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale avventista.
La voce della speranza.
Top Cuisine. Une émission savoureuse et bonne pour la santé. Présentée par Oscar Miani.
Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Top Cuisine et je suis en compagnie de Jess-Mylène Lopez. Bonjour Jess-Mylène.
Bonjour Oscar.
Merci de nous rejoindre au micro de Top Cuisine.
Merci moi.
Et comme je l'avais annoncé lors de notre dernière émission, eh bien aujourd'hui vous allez nous proposer une recette avec un ingrédient exotique. Et il s'agit du gratin à la banane plantain. Alors, comment est-ce qu'on va faire cette recette? Avec quels ingrédients? Alors, on a bien compris qu'il y aura de la banane plantain.
Oui, banane plantain.
Mais quoi d'autre? Et combien il en faut de banane plantain, d'ailleurs?
4 ou 5.
Pour combien de personnes, cette recette?
Peut-être 3-4 personnes.
3-4 personnes.
Oui.
D'accord. Il nous faut 4-5 bananes plantain. Et puis, un oignon aussi, je crois.
Un grand oignon.
Oui.
2 gousses d'ail, oui. Persil, sel, poivre. Une cuillère à café des fonds légumes, ça c'est facultatif.
Ah, c'est facultatif ça?
Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas.
D'accord, donc c'est si on veut.
Des bouillons, des fonds légumes, des choses comme ça.
Oui.
Donc une cuillère à soupe d'huile d'olive.
Oui.
Et puis vous pouvez rajouter des autres épices que vous aimez bien.
Par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple?
Par exemple, coriandre.
D'accord.
Et par exemple, feuilles de laurier.
Top cuisine.
Et alors, une fois qu'on a tous ces ingrédients-là, Jesmylène, qu'est-ce qu'on fait? On prépare ça comment? On commence par éplucher les bananes,
alors,
parce que évidemment, on mange pas la banane avec la
oui.
peau.
Une fois qu'on aura tout ça, on va éplucher la banane.
Oui.
On va la laver.
Oui.
On va la couper en rondelles.
On épluche la banane et on la lave.
Oh oui,
oui,
on la lave,
on la
c'est
lave.
Mieux, oui.
D'accord. D'accord, alors on lave la banane.
On lave la banane, on coupe en rondelles,
oui.
en rondelles moyennes. Et après, on va faire frire les rondelles de la banane.
D'accord, on fait frire en rondelles. D'ailleurs, on peut même les manger comme ça, les bananes plantain. Hein. Frites, on peut les manger directement
oui,
comme ça,
oui.
c'est très bon aussi.
Si vous n'avez plus envie de continuer la recette, vous pouvez finaliser là et manger la banane.
Tout en préparant la recette, on peut manger quelques
oui.
rondelles de banane.
Oui, d'ailleurs, c'est très bon.
Ensuite, on met ça dans une assiette et on met à part.
Ah non, avant on va frire la banane. Donc
dans
on peut
une
mettre
friteuse.
Dans une friteuse, dans une poêle.
À la poêle, dans de l'huile.
Oui, avec de l'huile, bien sûr. Et on va mettre dans une assiette, dans le fond d'assiette, on va mettre sopalin.
Oui.
Et on
du papier absorbant.
Du papier absorbant pour
oui.
absorber les huiles.
Oui.
Et on va laisser de côté. Donc on va préparer, on va faire une petite préparation à côté. Qui c'est dans une casserole, on va mettre notre oignon, ail coupé, un petit carré. Et on va mettre une cuillère d'huile d'olive et on va mélanger pendant 10 minutes au feu doux.
D'accord.
Et à la fin de cette préparation, on va rajouter notre banane. On va rajouter notre banane qui était mise de côté.
Et les épices on...
Et les épices également.
On les met aussi. Mmh. D'accord.
On va tout rassembler.
Dans la casserole.
Dans la casserole. Et on va mettre aussi... on aura aussi notre préparation. On aura la sauce béchamel.
Oui, parce qu'en fait, ça, c'est une première préparation.
Oui.
Et puis, c'est une recette qui se fait en deux temps, hein, en deux préparations différentes, parce que vous nous proposez aussi d'y ajouter une sauce béchamel.
Oui, oui.
Pour ce gratin à la banane plantain.
Oui.
Un peu comme les lasagnes de légumes hein, dont vous nous aviez parlé lors de l'émission précédente.
Tout à fait, tout à fait. Donc cette préparation, peut-être, il y aura trois parties. Donc c'est la partie où on fait frire la banane.
Oui.
Et puis une partie où on va mettre l'oignon et ail coupé.
Oui.
Et les épices. Et puis notre partie qu'on va faire la sauce béchamel.
Voilà. Et donc pour la sauce béchamel, eh bien c'est simple, il faut de la farine.
De la farine.
80 grammes. Hein.
80 grammes de la farine.
600 grammes de lait.
600 grammes du lait, sel, noix muscade, poivre et beurre aussi.
Du
40
beurre.
Grammes du beurre.
40 grammes de beurre.
Oui.
Et donc vous, votre façon de faire la béchamel, elle est très simple. Vous mettez tout, vous mélangez tout.
Voilà, pour ceux qui me connaissent, ils savent déjà. On mélange tout et on met tout au feu doux.
Et on remue.
Et on continue à mélanger
jusqu'à ce que ça épaississe.
Bah, tu sais déjà.
Et oui, parce que c'est pas notre première émission. Hein.
Et puis c'est facile à faire, donc t'as bien repéré.
Et donc, une fois que la béchamel est prête, Jesmylène, on mélange tout.
Donc, on va tout mélanger. On va
oui.
mélanger les trois préparations.
Oui.
La sauce béchamel, la banane à rondelles qui était déjà frite.
Oui.
Et l'oignon et l'ail, voilà, qu'on a mis de côté, on va tout rassembler. On va préchauffer les fours à 200 degrés et on va enfourner tout ça.
Et on laisse
et j'ai oublié. On va mettre un peu de fromage par-dessus, que ça se gratine.
Que ce soit gratiné, voilà. Et on laisse au four pendant combien de temps?
Oh, 20 minutes, c'est bon.
20 minutes.
Oui.
On regarde comment ça se passe, la couleur du gratin, par contre.
Oui, plutôt le gratin, que c'est plus important, parce que tous les ingrédients, ils sont déjà
cuits. C'est déjà cuit.
Oui.
D'accord, c'est juste pour gratiner.
Pour gratiner.
Voilà. Bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à se régaler une fois que c'est prêt.
Et c'est prêt, et il n'y a plus qu'à manger.
Voilà, donc c'était le gratin à la banane plantain. Évidemment, il y avait une petite touche exotique dans cette recette aujourd'hui.
Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la banane plantain, où on peut la trouver dans les magasins exotiques ou dans les supermarchés.
Ou les magasins asiatiques aussi parfois. Hein.
Asiatiques et magasins africains aussi.
Africains, voilà. Donc on peut en trouver quand même assez facilement.
Oui, très très facilement.
Voilà. Merci beaucoup Jesmylène, c'était Top Cuisine. On se retrouve pour une prochaine émission. Et là, on reste dans les gratins puisque vous nous parlerez de gratin de poireaux et pommes de terre au curry.
Oui,
voilà.
On va donner une touche asiatique.
Voilà, on se donne rendez-vous pour une prochaine émission de Top Cuisine. À bientôt.
À bientôt, Oscar.
Au revoir.
C'était Top Cuisine, présenté par Oscar Miani.
This is Adventist World Radio. The voice of hope.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale avventista.
La voce della speranza.
You are not under law.
But under grace.
You are not under law.
But under grace.
You are not under law.
But under grace.
Sin shall not be your master, because
you are not under law.
But under grace. Shall not be a master, because
you are not under law,
but under grace.
What then?
Shall we sin because we are not under law, but under grace? Oh, what then? Shall we sin because we are not under law, but under grace?
Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Juste avant, c'était Top Cuisine que vous retrouverez mercredi prochain à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, sur les www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion.
Valeur ajoutée,
Une réflexion de Pierre Péchou sur ses qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
C'est une petite lame souvent ovoïde, de corne, d'ivoire, d'écaille ou de plastique, et qui est utilisée pour faire vibrer les cordes de certains instruments. Guitare, mandoline, banjo. Les plus férus en musique ou les plus attentifs auront reconnu la définition de ce petit objet que l'on appelle un médiator. Si personnellement je connaissais l'objet, j'avoue humblement mon inculture musicale et j'ai dû chercher la définition exacte sur Internet. Je m'en remets donc aux spécialistes à ce sujet. Un site sur la guitare m'apprend donc que le médiator a été inventé pour soulager les guitaristes et leurs prothèses ongulaires, les ongles aussi j'imagine. Un petit objet qui soulage et qu'on va appeler médiator. Belle entrée en matière pour partager ensemble cette belle valeur de la médiation, puisque, vous l'aurez deviné, le mot médiator vient du mot médiateur. Je vous cite maintenant deux définitions qui remontent à l'origine de l'emploi du mot médiateur comme valeur. La première est de la fin du XIVe siècle et la seconde de la fin du XVe. Celui qui s'entremet pour créer un accord et celui qui intervient pour procurer un traité, une paix. La médiation a beaucoup été étudiée par le système juridique et beaucoup d'écrits de formation à la médiation viennent de cet univers. Elle a pour but de tenter de parvenir à un accord entre les parties. C'est une alternative au règlement judiciaire des conflits. Devenir médiateur, c'est donc être en capacité d'accompagner deux parties opposées pour les amener à trouver une solution à leur conflit. Mais vous l'aurez saisi, c'est une évidence, le domaine de la médiation s'étend bien au-delà de la sphère juridique, et c'est en cela qu'elle peut souvent nous intéresser et nous être utile. Dans le langage courant, la médiation peut être synonyme de conciliation. Sinon que spécifiquement, le médiateur, à l'inverse du conciliateur, n'est pas force de proposition, de solution pour régler un conflit. Le conciliateur a pour fonction de pouvoir proposer un accord qui satisfasse les deux camps. Le médiateur, par sa présence et ses interventions, aidera ces mêmes camps à trouver eux-mêmes un terrain d'entente, mais ne donnera jamais de solution. Je vous partage d'ailleurs maintenant cette définition du médiateur de 1974 qui vient du droit du travail. Personne désignée en matière de conflit collectif du travail afin de le régler après l'échec de la procédure de conciliation. La distinction est donc plus importante qu'il n'y paraît. Car certains d'entre nous ont parfois été découragés dans leur tentative de réconcilier deux parties, entre guillemets adverses. Beaucoup auraient des expériences à raconter dans la simple sphère de la famille. Mais souvent, l'erreur commise, même si la démarche est pleine de bonne volonté, est de faire de la conciliation en apportant soi-même ce que l'on croit être la solution, au lieu de faire de la médiation, c'est-à-dire, encore une fois, d'être un simple facilitateur de dialogue, d'être celui qui va permettre aux différentes parties de s'écouter et de s'entendre. Pour ceux qui se sentent des compétences à la médiation ou qui auraient simplement besoin de se former pour aider des amis, sachez qu'il existe de petits ouvrages qui vous donneront les bases nécessaires à une saine médiation. Sincèrement, quelques principes de base seulement sont nécessaires. Sur l'écoute, la prise de parole, la reformulation, le discernement, etc. Cela est bien suffisant pour pouvoir aider des personnes. Sauf bien sûr si on veut en faire une activité professionnelle qui demanderait évidemment une autre formation. Cependant, nous pouvons tous nous laisser interpeller par cette belle valeur qui rétablit la paix, ou du moins le calme, là où souvent la violence s'est installée. Je trouve cela motivant, dans un monde où la sérénité n'est pas forcément la première chose qui nous vienne à l'esprit pour le décrire, dans un quotidien qui aujourd'hui est beaucoup plus une source de stress et de tension que de quiétude. Je trouve motivant de pouvoir, assez facilement, être soi-même une source de réconciliation, de paix. Je trouve aussi merveilleux et une grande bénédiction que la Bible utilise ce mot « médiateur » pour parler de Jésus-Christ. Dans le cadre de mon travail, la liste est longue de rencontres de personnes entre guillemets, en guerre contre Dieu. C'est une image, mais vous la comprenez. Comment ne pas être interpellé par tous ces drames que vivent les personnes, ou simplement être interpellé par tous les drames qui se jouent sur notre planète? Si Dieu existe, face à cette réalité, n'ai-je pas raison d'entrer en conflit avec lui sans vouloir en sortir? Démontrer que non dépasserait le cadre de notre partage. Mais je vous disais donc que c'est une bénédiction que Jésus soit présenté comme médiateur, l'unique entre Dieu et nous. Et si vous avez été attentif à ce qu'est la médiation, vous aurez compris que Jésus ne vous apportera pas forcément toutes vos réponses tout de suite, mais qu'il vous permettra de renouer le dialogue avec le Père, et j'en suis persuadé, par expérience, de vous réconcilier avec lui.
C'était Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchaud.
Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche ? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Notre émission est maintenant terminée, c'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6155 kHz bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz bande des 19 mètres et à 20h sur les 9780 kHz bande des 31 mètres. Je vous souhaite une très bonne continuation, que Dieu vous bénisse, à demain.